Bonjour et bienvenue sur CNews. Dans un instant, place au débat. Ce sera juste après le rappel des principaux titres en compagnie d'Adrien Spiteri.
Les vols reprennent aux États-Unis. Le trafic aérien était perturbé après la panne d'un système d'information. L'origine n'a toujours pas été déterminée. Plus de 3500 vols ont été retardés. La porte-parole de la Maison-Blanche exclut pour le moment une cyberattaque. Retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale. Il était présent pour l'examen d'un rapport d'information sur la réforme du corps diplomatique ce matin. Le député du Nord avait été condamné en décembre à 4 mois de prison avec sursis pour des violences sur son épouse. Il est suspendu jusqu'au 13 avril du groupe des députés LFI. Et puis la France, de nouveau exportatrice d'électricité, conséquence d'une production éolienne plus importante et des efforts d'EDF pour rebrancher des réacteurs nucléaires. En cas de coup de froid cet hiver, la tendance pourrait à nouveau s'inverser.
Le texte sur les retraites désormais connu, les syndicats s'organisent. Le premier test de la rue, ce sera le 19 janvier prochain. Et à l'Assemblée également, les réactions hostiles à ce projet de loi n'ont pas tardé. Écoutez.
Quand on dit progrès social, ça veut dire qu'on améliore les conditions de vie des gens. Et là, ce qui nous est proposé, c'est de travailler plus longtemps. Ça détériore, ça casse, et en particulier les premiers de corvée qui vont être les premiers touchés par cette contre-réforme terriblement brutale et terriblement cruelle et terriblement injuste.
Le COMEX de la FFF a donc tranché. Aujourd'hui, la mise en retrait de Noël Le Graët est actée, le temps que l'enquête se poursuive. Son second assurera entre-temps l'intérim. Réaction à la sortie.
La sagesse, l'emploi.
Je ne fais pas de commentaires pour l'instant.
Comment ça s'est passé? Il était comment, monsieur Le Graët? Est-ce qu'il était combatif? Est-ce qu'il était désabusé?
Il est très malheureux. Voilà.
On est des grands garçons, on sait ce qu'on a à faire. On sait prendre notre destin entre nos mains quand on doit le faire. On doit prendre nos responsabilités.
Comment il est, Philippe Diallo?
Enfin, c'est décidé, le festival Les Déferlantes n'aura pas lieu à Perpignan, sous la pression du groupe Indochine qui refusait de jouer dans une ville tenue par le Rassemblement National.
Ils viennent jouer devant leur public. Ils ne viennent pas jouer pour me faire plaisir à moi ou pour faire plaisir au Rassemblement National. Tout ça est totalement, j'allais dire, dérisoire. C'est lamentable de voir ça de la part de gens qui sont des privilégiés, qui sont des privilégiés du système. Et j'espère que le public leur en tiendra rigueur à l'avenir.
Entre autres, d'ailleurs, autour de cette table aujourd'hui, ma compagne Judith Vintrop, bonjour, grand reporter au Figaro Magazine. Merci d'être là, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, est là également. Merci à vous. Pierre Lellouche,
bonjour Nelly.
Ancien ministre, est parmi nous. Je suis ravie de vous retrouver, ainsi que Éric de Ridmaten de notre service économie. On va parler de l'actualité immédiate, bien sûr. C'est cette attaque qui a eu lieu très tôt ce matin, Gare du Nord, et qui n'a pas encore livré toutes ses réponses. Un homme a blessé 6 personnes, dont une grièvement, par arme blanche, avant d'être maîtrisé, fort heureusement, par des policiers qui étaient en patrouille sur place. La motivation du suspect, eh bien, elle reste à déterminer. Tous les yeux étaient tournés vers le parquet national antiterroriste, mais il est pour l'instant, comme on dit, en évaluation. Alors on va tenter de voir ce qui s'est passé. Le retour sur les faits avec Maureen Vidal.
Un périmètre de sécurité déployé après la scène d'horreur à Gare du Nord ce matin. L'assaillant, muni d'une arme blanche, a blessé 6 personnes, dont une grièvement.
On a vu des gens courir de tous les côtés et directement j'ai entendu un coup de feu de la police. Un monsieur qui poignardait des gens comme ça, qui est rentré par l'autre porte là, la porte du fond, là on prend des taxis, qui est rentré, il poignardait des gens. J'ai vu un des messieurs qui l'a poignardé, qu'on a couché tout à côté.
J'ai vu une personne âgée qui giclait du sang de son cou. Elle a été prise en soin par la police, il y avait des pompiers et tout. Franchement, ils étaient vraiment efficaces par rapport à ça.
L'identité de l'agresseur, qui n'avait pas de papier sur lui, est en cours de vérification. Il a été hospitalisé, son pronostic vital est engagé. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Anne Hidalgo se sont rendus sur place.
Il est neutralisé par les services de police, par des policiers qui sont en civil, qui reviennent de leur service d'ailleurs à la préfecture de police pour reprendre leur train et rentrer chez eux, mais qui sont armés dans le cadre des dispositions que nous avons prises justement pour que les policiers continuent à garder leur arme administrative, et par des policiers aux frontières qui sont en poste à la gare du Nord, et ils tirent par 3 fois.
Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Le trafic ferroviaire a repris son cours peu de temps après.
Nous sommes en direct avec Johan Maras, secrétaire régional d'Alliance Paris. Bonjour, merci de nous rejoindre sur l'antenne de CNews cet après-midi. Évidemment, beaucoup de questions autour des motivations de cet individu. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Qu'est-ce qui dirige d'ailleurs l'enquête dans un sens ou dans l'autre? Quels sont les éléments qu'on prend en compte avant de confier ce genre d'enquête à un parquet plutôt qu'un autre?
Bonjour.
Alors, on a un petit peu de mal à vous joindre. La liaison est un petit peu chaotique, en tout cas capricieuse. On tentera de rétablir la connexion un petit peu plus tard. Pierre Lellouche, même question, au fond. À quel moment on va savoir quels sont les éléments les plus probants pour diriger potentiellement cette enquête vers le PNAT?
Il faudra qu'on trouve l'identité du personnage en question, que la police fasse son enquête. Et là, on aura quelques éléments pour voir si c'est ou pas quelque chose qui a un lien avec le terrorisme.
Mais pour l'instant, on ne sait rien. Il y a des témoignages sur place, parce qu'il y avait quand même du monde dans cette gare tôt le matin.
Il y a des témoignages, je pense, qui sont en train d'être recueillis et qu'on va avoir une idée de ce qui se passe en fin de journée, peut-être. Mais ce que je peux dire, parce que je la connais bien, cette gare, c'est que malheureusement, comme on dit vulgairement, ça craint, quoi. Je ne veux pas être insultant par rapport à tous ceux qui y travaillent tous les jours, ce n'est pas facile, mais franchement, ça tient plus de la poubelle qu'autre chose. Il y a énormément de drogués, de clochards, de gens comme ça à l'extérieur, devant le hall principal. C'est toujours un moment où, même quand on est un homme et qu'on n'a pas trop peur,
c'est pas rien à voir avec ce qui s'est
quand même. Non, mais quand on prend, ce qui me fait de la peine, c'est quand on prend l'Eurostar et qu'on regarde à l'autre côté Saint-Pancras, propre, tenu, etc., et qu'on arrive ensuite, qu'on part de la gare du Nord. Franchement, le contraste est désastreux et je crois qu'il est temps cet événement a pu se produire dans un climat qui, encore une fois, est juste très, très, très peu, très peu sûr.
Jean-Michel Fauvergue, revenons à l'enquête 2 secondes. On saura rapidement, selon vous, ça va se décider là, dans les prochaines heures, l'orientation de l'enquête.
Vous savez, Nelly, quel que soit le parquet saisi, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que les magistrats se saisissent de l'affaire, et c'est toujours le cas pour une affaire comme ça, bien évidemment. Et ensuite, il y a possibilité de requalifier après et de changer de parquet éventuellement et de ressaisir le PNAT si besoin en était. Je pense que dans les premières constatations, et comme dit Pierre Lellouche, dans les premières constatations et les premières diligences, comme on dit dans une enquête policière, on verra si l'individu déjà avait toute sa raison. Ensuite, s'il est effectivement estampillé terroriste, s'il est connu d'un fichier, je pense que ça aurait déjà fuité s'il était connu d'un fiché S, par exemple, mais pourquoi pas. Donc tout ça va se faire sur le terme. De toute façon, on part sur une enquête qui va durer forcément. Il n'y a aucune crainte. J'espère ne pas me tromper en disant ça, de le voir dehors. Il n'y a aucune crainte.
Bon, Johan Maras, secrétaire régional d'Alliance Paris, nous a rejoint. Ça y est, on a rétabli la liaison avec vous. J'espère que cette fois, le son et l'image fonctionnent. Je ne sais pas si vous avez entendu le début de notre conversation en plateau, mais au fond, on voulait savoir où en était l'enquête, même si voilà, ça fait que quelques heures. Il y a déjà quand même quelques pistes qui se dégagent ou vous êtes toujours très précautionneux?
Alors, on est toujours très précautionneux. Comme vous le dites, l'enquête a débuté il y a quelques heures. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que, comme vous le disiez sur votre plateau, le parquet qui est saisi, c'est le parquet criminel, le parquet de Paris, qui a donné cette affaire à la DRPJ, à la police judiciaire de la préfecture de police, la brigade criminelle. Le parquet antiterroriste est pour l'instant sur un rôle d'observation, d'analyse. Comme le disait Monsieur Fauvergue, si des éléments viennent conforter une thèse ou l'autre, il n'y a aucun problème pour que le parquet antiterroriste puisse se saisir. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Les motivations sont encore inconnues. Je vous rappelle quand même que ce monsieur qui a agressé ses victimes et mes collègues a été neutralisé par arme à feu. Il a pris une balle dans le thorax. Il est entre la vie et la mort. Donc, pour l'instant, pour mes collègues enquêteurs, on ne va pas pouvoir évidemment avoir ses déclarations. On ne va pas pouvoir avoir un retour sur une analyse psychologique. C'est encore beaucoup trop tôt pour venir parler d'une piste plutôt que plutôt que d'une autre.
Évidemment, il y a encore le spectre des attaques sur les voyageurs qui ressurgit, parce que ce n'est pas la première fois. Ça aurait pu être encore plus dramatique, d'ailleurs, sans l'action des policiers qui étaient là, fort heureusement. Mais ce n'est pas la première fois qu'on déjoue aussi ce genre d'attaque. Il y a eu, dans les mois écoulés, récents, des attaques potentielles qui ont été déjouées. Je repense encore à la gare Montparnasse, il n'y a pas si longtemps.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça que notre organisation syndicale, avec le ministère de l'Intérieur, on a demandé, et c'était une revendication de très longue date, d'obtenir une sécurisation des transports. On a obtenu le dispositif Voyager Protégé. L'un des effectifs qui est en civil, comme l'expliquait le ministre de l'Intérieur, c'est un effectif de la BRF, donc la Brigade des Réseaux Ferrés, qui est un effectif de nuit, qui quittait son service, qui venait Gare du Nord prendre son train pour rentrer à son domicile. Ce dispositif, c'est quoi ? C'est quelque chose d'assez assez simple. Nos collègues ont un accès sur les grandes lignes SNCF avec une prise en charge de leur billet de TGV qui est à hauteur de 90%. La condition, c'est d'être armé et de pouvoir sécuriser justement les lignes TGV et les grandes lignes, comme on dit. On sécurise, la BRF sécurise déjà tout le réseau métro RER. Ce dispositif amène justement ça. Là, pour nous, ça démontre l'efficacité de ce dispositif. Et surtout, c'est ce qu'on a expliqué assez rapidement dans la journée. Qu'est-ce qui serait passé ? On est sur une action qui dure quelques minutes. Qu'est-ce qui serait passé si mes collègues avaient mis 10 minutes ou un quart d'heure à intervenir? Je pense qu'on aurait eu affaire à un bilan beaucoup plus lourd au vu de la violence et de la détermination de cet individu.
Merci beaucoup. Merci, Johan Maras, d'avoir été en direct en notre compagnie. Petite réaction, peut-être, Judith Weintraub, sur la rapidité, quand même, de l'identification, la prise en charge des blessés, etc.
C'est ce que dit ce syndicaliste policier. Heureusement que le dispositif qui s'appelle le Voyager Protégé, dont je rappelle qu'il a été mis en place tout récemment, cette année, et qui consiste à permettre à des forces de l'ordre qui disposent d'une arme de la garder et de voyager ou gratis ou à billet à tarif très réduit s'ils se signalent comme étant porteurs d'une arme. Heureusement que ce dispositif existe. Je me rappelle qu'à gauche, certains avaient poussé des cris d'orfraie quand ça avait été autorisé en disant en gros qu'on allait lâcher des assassins potentiels dans la rue.
Un dernier petit mot,
Jean-Luc. Oui, pour compléter, depuis 2015, les policiers sont autorisés, les policiers et gendarmes sont autorisés à être armés en dehors de leurs heures de service parce qu'ils peuvent intervenir. Il y avait une faille dans le système qui a été corrigée par la loi Sécurité Globale, c'est de pouvoir rentrer dans les salles de spectacle armés hors service pour pouvoir poursuivre le spectacle et pouvoir intervenir s'il se passe quelque chose. Donc ce prisme cette prise en compte est quelque chose d'important, et là c'est un dernier échelon qui a bien marché aujourd'hui.
Pierre Lelouch, si vous arrivez à faire
un mot pour poursuivre ce que disait tout à l'heure Judith, je rappelle qu'il y a des gens dans ce pays, et pas des moines, qui disent la police tue. Heureusement qu'elle était là, la police, et que c'est un bon dispositif. Il est très courant, par exemple, en Israël, où il y a beaucoup d'attaques de ce genre. Les militaires, les policiers sont très réactifs, et c'est bien qu'on s'inspire de ce genre de méthode.
Merci beaucoup. Allez, on va changer de thème. On va parler de ce bras de fer qui est désormais engagé sur la réforme des retraites. Après la présentation hier du texte par Elisabeth Borne, c'était au cœur aujourd'hui du Conseil des ministres. Écoutez un mot de ce qu'a dit Olivier Véran à la sortie.
Bien sûr, le président de la République a abordé la réforme des retraites dans son propos liminaire pour rappeler encore une fois qu'il est indispensable, il est vital pour préserver notre système de retraite par répartition, de procéder à cette réforme en allongeant, en décalant l'âge de départ à la retraite. Il a insisté sur toutes les avancées sociales que contient ce projet de réforme et qui sont directement la conséquence de la phase de concertation qui a eu lieu avec les partenaires sociaux et pour laquelle il avait lui-même demandé qu'il y ait davantage de temps qui lui soit consacré.
Emmanuel Macron qui la considère donc indispensable et vitale, on a bien compris. Mais écoutez ce qu'il disait en avril 2019.
Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Et pourquoi ? Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal, parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, qui est de créer ce nouveau système par points, qui va remettre de la confiance, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système, qui sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie, qui sont parfois très coûteuses et qui sont aujourd'hui des vraies inégalités qu'on ne sait plus justifier. Et ça, c'est beaucoup plus profond, plus ambitieux. Il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal.
Bon, vous l'aurez compris, on est aux antipodes aujourd'hui. Éric de Rydmaten, reniement, changement de donne financière. En tout cas, on a l'impression que la méthode Macron n'est jamais très claire quand même.
Là, c'est un changement de cap, mais c'était avant sa campagne pour le nouveau mandat. Donc c'est vrai qu'à l'époque, n'oubliez pas que c'était une retraite à points. Jean-Paul Delevoye avait travaillé sur ce projet. Les points étaient une bonne solution, puisque là, c'était vraiment une sorte de capitalisation en fonction de vos revenus. Vous gagniez des points, ce qui est le système de la caisse Agirc-Arrco, hein, nous, rappelons-le, la caisse des cadres, la caisse complémentaire. C'est un peu ce système que voulait faire Emmanuel Macron en fusionnant finalement Agirc-Arrco avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Ça aurait fait une seule caisse de retraite. Bon, il y a eu la campagne, hein, donc 2022. Là, il faut être honnête, il a dit « je vais revenir maintenant sur l'âge de départ ». Et il a dit « dans mon programme, il y aura le report de l'âge légal de la retraite ». Donc vous voyez, c'est un peu cruel pour lui de sortir 2019, où à l'époque, il avait son projet que je trouvais très solide sur les points. Et puis maintenant, ben voilà. Alors, ça se discute, hein, bien sûr, cette réforme. Certains disent qu'il suffisait d'augmenter les cotisations sociales, il suffisait de baisser un petit peu les pensions, et puis on s'en serait sorti. D'autres qui disent qu'il aurait suffi de faire travailler plus longtemps les seniors de 55 à 64 ans ou d'augmenter 10 points leur activité. C'est-à-dire, c'est ce que dit la CFDT. La CFDT a dit, si on augmente de 10 points la présence des seniors au travail, on sauve le système. Vous voyez, il y avait plein de portes. Et aujourd'hui, bien côté, on est dans ce report de l'âge légal. Et je termine par un point. Il va être fait, il est acté, enfin, il va être discuté au Parlement. Mais il y aura beaucoup de mesures qui adouciront cette réforme, qui risquent de coûter très cher au gouvernement en termes financiers.
Je ne vais pas donner tout de suite la parole à Jean-Michel Fauvergue, parce que vous allez dans le même sens. Donc la défense d'Emmanuel Macron, ben, l'attendra un tout petit peu. Je vous ai vu rire, voire même ricaner, Pierre Lelouch.
On a tellement
c'est un renoncement total. Enfin, l'explication des points, ça vous satisfait pas ?
Alors, pour être juste, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais changer d'avis tout le temps, ça commence à devenir usant, surtout quand on est président de la République. Bon là, on est parti sur un truc qui était peut-être très bien conceptuellement. Enfin, ça ne marchait pas. Du coup, on a perdu 6 ans. Et ça devait être voté avant Noël grâce à M. Bayrou. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Il l'a reporté au pire moment, c'est-à-dire en plein dans la crise énergétique après les vacances de Noël. Donc maintenant, il a une société qui est très, très tendue, qui a du mal avec l'inflation, avec les prix alimentaires, avec les prix de l'énergie. Oui. On lui apporte cette réforme. Cette réforme, franchement, elle est soft. Elle est soft. Toute l'Europe est à 65, 67, 68 ans. La durée de vie des gens augmente, tout le monde le sait. 64 ans, l'important, c'est le nombre de cotisations et le nombre d'années, d'annuités de cotisation. Elle est un peu accélérée, mais on reste dans les purs à 43 ans. Et puis surtout, on met beaucoup de sucreries dans le système, dont une qui est très importante. Je ne parle même pas de la pénibilité, des gens qui commencent tôt et tout le reste, ça c'était acté. C'est surtout l'augmentation de la retraite pour les gens modestes qui vont se retrouver à
1200.
Ah oui, c'est ce qui n'est pas si mal. Le problème de tous ces petits cadeaux, c'est qu'ils coûtent cher et qu'au final, au lieu d'économiser 17, 18, 20 milliards, on va en économiser 12. Donc ça va être équilibré jusqu'en 2030. Et en 2030, il faudra recommencer. Et donc ce sera pour les suivants. Mais c'est un peu la règle du jeu dans un pays dont la démographie au travail se réduit, puisque maintenant il y a 1,4 Français pour payer les retraites de ceux qui sont à la retraite. C'est pas du tout la situation de 1945 où Ambroise Croizat avait 3 travailleurs pour un retraité.
Bon, je rappelle que vous avez été aussi parlementaire. Si vous étiez aujourd'hui à l'Assemblée, là, vous voteriez le texte ?
Oui, oui. Okay. Parce que c'est un texte.
C'est divisé, hein,
nécessaire. C'est un texte. Oui, mais bon, en dehors des questions de personnes et. On a un groupe LR aujourd'hui où c'est une collection de PME, chacun pour soi. Il n'y a plus de ligne partisane, il n'y a plus vraiment. Voilà, donc c'est un peu regrettable, mais c'est comme ça. Mais l'intérêt du pays, c'est d'avoir un système équilibré, qui nous mette dans la moyenne. Et puis, j'ajoute quelque chose dont personne ne parle, mais c'est l'essentiel. Macron, il veut cette réforme. Pourquoi ? Ça l'embête. 84% des Français sont contre. Il en a besoin parce qu'il a besoin d'envoyer un signal au marché, au FMI et à la Banque mondiale que la France, elle reste, malgré les milliards qui sont jetés sur l'énergie, le pétrole, le gasoil et tout le reste, elle reste un pays relativement sérieux qui peut continuer à emprunter alors que les taux d'intérêt augmentent. Et donc, il faut envoyer un signal de bonne gestion.
Mais cette considération-là, elle n'est pas acceptée du tout par les Français, vous le savez bien. D'ailleurs, on verra si
ça oui, c'est pour ça qu'ils n'en veulent pas. Mais en même temps, elle est en même temps essentielle parce que si on ne peut pas emprunter... il faut savoir que là, ce mois-ci, on va emprunter 300 milliards, par exemple.
Judith Vintraub, sur l'attitude Macron et ce revirement à propos d'un texte, de la philosophie du texte.
Déjà, il y a eu plusieurs revirements. On fait comme s'il avait eu un projet cohérent au cours de son premier quinquennat et qu'il en avait changé au deuxième. Mais rappelez-vous, en plein milieu de la présentation de la première mouture de la réforme systémique, on nous sort... Édouard Philippe, en l'occurrence, l'histoire de l'âge pivot. Donc on remet dès ce moment-là la question de l'âge et donc on pollue cette belle idée de il y en a marre de s'intéresser à l'âge de départ. Ce qui compte, c'est la durée de cotisation. Première chose. Deuxième chose, moi je suis d'accord avec à peu près tout ce que vous avez dit. La question essentielle, c'est quand même est-ce que ça permet à notre système de survivre ? Quelle est la caractéristique du système français ? Outre que les Français partent plus tôt que tout le monde en Europe, sauf les Slovaques, je crois, à la retraite, c'est que c'est quasiment entièrement un système par répartition. Oui. Il n'y a pas du tout de capitalisation, sauf pour certaines branches du public.
Voilà.
Grand paradoxe, par exemple, les salariés de la Banque de France qui, eux, ont un système... Une préfonds très par capitalisation qui marche très, 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 très bien. Merci pour eux. Or, la CGT est très puissante au sein de la Banque de France. Elle n'a jamais dit un mot contre le système de capitalisation dont jouissaient les salariés de la Banque de France. Mais c'est pas une question rhétorique. La question, c'est est-ce que le système par répartition tel qu'on le vit en France peut perdurer sans introduire de la capitalisation ? Quand on regarde l'ensemble des analyses sur le sujet, la réponse est plutôt non.
Allez, on continue d'en parler tout à l'heure. Non, mais vous aurez... là, on est un petit peu pris par le temps. Jean-Michel Fauvert, on y a consacré pas mal de temps, je vous assure. On en reparlera parce qu'on va y revenir dans la dernière partie de notre débat. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique éco. Et il en est question à nouveau les retraites.
Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
Alors Eric, il y a un volet supplémentaire qui a été annoncé ce matin par Olivier Véran et il concerne la pénibilité.
Oui, on commence déjà à voir à l'horizon ces mesures qui vont adoucir la réforme. Coût 1 milliard d'euros, vous savez, c'est ce fameux compte pénibilité qui va permettre à certaines personnes qui ont vraiment des tâches difficiles, qui travaillent sur des marteaux-piqueurs, qui soulèvent des personnes malades dans les hôpitaux et qui vraiment sont à bout de nerfs, si vous voulez, et bien là, ces personnes pourront passer une visite médicale qui sera d'ailleurs obligatoire à partir de l'âge de 60 ou 61 ans. Et si le médecin estime qu'effectivement l'état de santé n'est pas suffisant pour ce travailleur, eh bien la personne pourra prendre sa retraite donc à 61 ans au lieu de 64. Donc vous voyez, le compte pénibilité va vous donner en plus des points qui permettront aussi à certains de changer de métier ou d'avoir une formation s'il le faut. Je le rappelle, c'est comme 1 milliard d'euros qui vont être investis pour aussi améliorer les conditions de travail, vous savez, faire des lits automatiques ou une manière d'aider le port des charges. Alors, ça soulève plusieurs questions, je termine par là. D'abord, s'il suffit d'aller voir son médecin pour avoir un certificat pour partir à la retraite anticipée, attention à ce qu'il n'y ait pas, bien sûr, des abus, parce que peut-être que certains, vous savez très bien que l'absentéisme ou les faux certificats d'arrêt de travail se multiplient. Toutes les études le montrent, plus 20% entre 2019 et 2022. Donc, c'est vraiment un mouvement, les arrêts de travail. Travail faux parfois. Alors ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est que les médecins, bien sûr, vont se retrouver face à une charge de travail considérable. On manque de généralistes. Est-ce que c'est la médecine du travail qui sera sur le terrain pour vérifier qu'il y a vraiment pénibilité ? Vous voyez, on est en train de créer de nouveau, peut-être, si je peux me permettre, une nouvelle usine à gaz pour aider les personnes qui sont en difficulté dans leur travail.
Merci beaucoup, Eric.
C'était votre programme avec XXL Maison. mobilier design et décoration.
Avec nous dans un instant, après une courte pause, le journal suivi de Noël Le Graët, qui donc est écarté, en tout cas mis à pied temporairement jusqu'à la fin de l'enquête de l'audition de la tête de la FFF. Et c'est son second qui prend sa suite. À tout à l'heure. De retour avec vous pour la suite de notre émission. Le débat reprend juste après le JT, puisqu'il est 16h, avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. 6 personnes blessées à l'arme blanche, dont une grièvement, gare du Nord à Paris. Les faits se sont déroulés ce matin, un peu avant 7h. L'agresseur a été maîtrisé par des policiers sur place. Un policier de la police des frontières fait d'ailleurs partie des blessés. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Écoutez le témoignage de cet homme présent lors de l'attaque.
On a vu des gens courir de tous les côtés et directement j'ai entendu un coup de feu de la police. Un monsieur qui poignardait des gens comme ça, qui est rentré par l'autre porte là, la porte du fond, là on prend des taxis, qui est rentré, il poignardait des gens. J'ai vu un des messieurs qui l'a poignardé, qu'on a couché tout à côté et la police a dû intervenir pour pouvoir le neutraliser avec un coup de feu que j'ai entendu personnellement. On était tout en panique là parce qu'on n'a rien compris. À la gare du Nord, très souvent, je prends mon train pour aller au boulot, il n'y a pas ce genre de situation. Donc en panique, on se posait la question, qu'est-ce qui se passe, terroriste ou je sais pas. Donc on avait pas mal de questions. C'est après que nous sommes allés vers un policier qui nous a dit non, c'est un monsieur qui a poignardé et tout. Donc cela, on a compris.
Les syndicats font front uni contre la réforme des retraites face aux annonces du gouvernement. Une journée de mobilisation est prévue le 19 janvier. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée, Elisabeth Borne est revenue sur ses annonces d'hier. Un projet, je cite, d'équilibre. Écoutez.
J'ai annoncé hier notre projet pour garantir l'avenir de nos retraites. Un projet d'équilibre d'abord. Nous refusons d'augmenter les impôts ou de baisser les pensions. Le seul chemin possible, c'est donc de travailler progressivement plus longtemps.
On va retrouver le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui va s'exprimer en direct.
On est évidemment attentif aux messages des organisations syndicales, des partis politiques, des Français. Mais notre rôle et la période dans laquelle nous sommes rentrés, maintenant que la concertation est terminée, c'est l'explication, la discussion, le dialogue et les échanges.
Une dernière question, simplement, depuis votre compte-rendu Conseil des ministres tout à l'heure, Noël Le Graët a annoncé sa mise en retrait de la Fédération française.
Il y a une formidable ministre des Sports, elle s'appelle Amélie Oudéa-Castéra et elle va parler dans quelques minutes. Je ne vais pas lui griller la politesse parce que c'est elle qui aura l'occasion de s'exprimer.
Voilà Olivier Véran qui n'en dira pas plus sur l'affaire Noël Le Graët. Pour la première fois depuis des mois, Adrien Quatennens s'est rendu à l'Assemblée nationale ce matin. Le député du Nord a assisté à une réunion de la Commission des affaires étrangères. Gauthier Le Bret, vous êtes au Palais Bourbon où le retour d'Adrien Quatennens a provoqué de vives réactions.
Oui, à commencer par du côté de la NUPES. Ça ne fait pas l'unanimité au sein de la NUPES, ce retour d'Adrien Quatennens. Pour la chef de file des députés écolos, la place d'Adrien Quatennens n'est pas à l'Assemblée. Et en off, des députés insoumis me confiaient que c'était du sabotage, le retour d'Adrien Quatennens, en cette semaine de présentation de la réforme des retraites. Pour Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance, de la majorité présidentielle, elle propose de rendre inéligible toute personne qui s'est rendue coupable de violence conjugale. Elle a fait une proposition de loi qu'elle va déposer en sens, en réaction justement au retour d'Adrien Quatennens. Et puis enfin, pour Marine Le Pen, elle dénonce la formidable hypocrisie de la France insoumise dans cette affaire. Si Adrien Quatennens, dit-elle, veut revenir la tête haute à l'Assemblée, il faut qu'il démissionne et se fasse réélire. Je vous rappelle qu'Adrien Quatennens a été suspendu pour 4 mois du groupe insoumis. Il siège donc en tant que non-inscrit. Et puis 4 mois, c'est aussi sa peine de prison avec sursis pour la gifle qu'il a infligée à son épouse.
Et puis ce mercredi, c'est le coup d'envoi des soldes d'hiver. C'est parti pour 4 semaines de promotion dans les magasins. Mais dans un contexte d'inflation, les Français sont-ils d'humeur réellement à faire des achats? On vous a posé la question.
Je compte sur les soldes parce que ça devient un peu moins cher par rapport à d'habitude. Je n'ai pas trop les moyens, donc je fais ce que je peux, vous voyez.
Le budget, il est beaucoup plus serré. Donc après, à voir si les soldes sont intéressants, c'est surtout ça la clé.
Moi, je compte pas faire les soldes parce que, en effet, les prix restent excessivement chers. En sachant que je suis encore étudiante, donc je préfère garder, on va dire, le peu d'argent qui me reste pour faire mes courses.
J'ai pas particulièrement de difficultés à faire mes achats au quotidien. Donc les soldes, ça aide, mais c'est pas un besoin pour moi.
Justement, il faut en profiter parce que c'est pas cher et puis il faut savoir se faire plaisir.
Les temps sont durs et je pense que je vais juste pas consommer du tout cette année.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. La suite à présent des débats de 90 minutes info avec Nelly Denac et ses invités.
Merci beaucoup Mickaël et à demain pour un nouveau point sur l'actu à 16h. L'étau se resserrait autour de Noël Le Graët, on l'avait bien senti dès hier, et une réunion de crise a eu lieu à nouveau ce matin au COMEX de la Fédération française de foot. Au sortir, on apprend qu'il est mis en retrait le temps de la remise d'un rapport d'audit. Philippe Diallo, c'est son second, assurera désormais l'intérim. Jeanne Cancard, vous êtes sur place, il y avait beaucoup, beaucoup de monde et on a eu pas mal de réactions aussi à la sortie. Hein.
Oui, Nelly, le comité a duré ici près de 3 heures à l'intérieur du siège de la Fédération française de football. Alors, il faut savoir que, au total, il y a 14 membres de ce comité qui participaient à cette réunion exceptionnelle, dont, évidemment, Noël Le Graët. Parmi ces 13 autres membres, eh bien, il y en a certains qui étaient en présentiel ici, d'autres qui étaient en visio. Et parmi ceux qui ont participé à la réunion ici au siège de la FFF, eh bien, certains ont bien voulu très brièvement tout de même s'exprimer, comme Jean-Michel Aulas, quand on lui a demandé dans quel état d'esprit se trouve Noël Le Graët. Il nous a dit, je cite, il est très malheureux. Vous avez aussi Vincent Labrune, le président de la Ligue, qui lui a dit que c'est finalement la sagesse qu'il a emporté, puisqu'il faut dire que ça faisait déjà plusieurs jours que les membres du comité exécutif étaient sous pression du gouvernement, puisque la ministre des Sports leur avait demandé ce lundi de prendre leurs responsabilités. Cette ministre des Sports, le ministère des Sports, qui a d'ailleurs lui-même diligenté cet audit qui sera donc rendu d'ici un mois. Et c'est donc à l'issue de ce rapport final que Noël Le Graët pourrait définitivement partir ou non, même s'il semble assez aujourd'hui peu probable que le président, l'ancien président, en tout cas plus actif de la Fédération française de football, revienne ici à la tête de la FFF.
De Paris. Merci à vous, Jeanne, pour toutes ces précisions. Entre-temps, sur ce plateau, Guillaume Filleul nous a rejoint. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Journaliste sport sur le site de CNews, cnews.fr. Ce qu'on retient quand même, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gêne autour de cette affaire. Beaucoup de gens se sont concentrés sur l'histoire de Zidane, bien sûr, c'était la goutte d'eau. Il y a tout un passif avec cet homme qui, lui, d'ailleurs, conteste. Hein. Il dit il comprend pas. En fait, il est un peu sonné. Il comprend pas trop ce qu'on lui reproche aujourd'hui encore. Est-ce qu'il est dans une forme de déni ?
De déni, peut-être, hein, mais c'est effectivement, c'est sûr. C'est qu'il y avait un dossier très, très épais à charge contre Noël Le Graët. Vous l'avez dit, hein, donc il y avait ces déclarations sur Zinedine Zidane. Hein. Ce n'était pas tant les propos en eux-mêmes, c'était plutôt la forme hein, qui était pointée du doigt. Mais avant ça, effectivement, il y avait eu tout un tas de déclarations sur l'homophobie dans les stades, sur le racisme dans les stades, des déclarations sur le Qatar en amont de la Coupe du Monde. Il y avait eu également des sorties qui ont choqué ces problèmes de harcèlement, de comportement envers certaines collaboratrices. Donc effectivement, la pression devenait un peu trop grande autour de Noël Le Graët. Et effectivement, il y avait que cette solution-là de mise en retrait pour oui. Aplanir un peu,
parce
un
qu'on
peu
les pas, choses. On ne pouvait pas vraiment le démettre complètement.
Non, c'était compliqué. C'était soit il démissionnait, et effectivement, c'était beaucoup plus simple, soit là, donc la mise en retrait pour pouvoir justement ramener un petit peu de calme dans la maison hein, qui commençait à prendre sérieusement feu, et pour pouvoir assurer et commencer à préparer sa succession.
Au détour de la réunion, on a quand même appris aussi que Deschamps, lui, était... confirmé oui, voilà, hein, jusqu'en 2026. Ça, c'est pas franchement une surprise. Mais enfin, bon, c'est une information comme une autre.
Voilà, ça peut être déjà un soulagement hein, pour lui, parce qu'effectivement, son contrat faisait partie hein, des raisons pourquoi il y a eu ce comité exécutif extraordinaire. Parce que cette prolongation jusqu'en 2026 avait été un peu faite dans le dos du COMEX, hein, puisque seul Noël Le Graët avait décidé de cette prolongation et surtout de sa durée jusqu'en 2026. Et c'était ça qui posait problème. 4 ans, ça semblait beaucoup. Le COMEX aurait préféré 2 ans. Mais bon, voilà, finalement, tout est rentré dans l'ordre à ce niveau-là. Didier Deschamps devrait bien rester sélectionneur de l'équipe de France, au moins jusqu'en 2026.
Vous restez avec nous, bien sûr. Jean-Michel Fauvert, ça vous inspire quoi, toute cette affaire ? Il fallait bien trouver une solution intermédiaire qui le pousse gentiment vers la sortie, parce que son mandat durait, je crois, encore 1 an à peine.
Ouais, écoutez, vous savez, les gens qui sont à la tête des fédérations sont d'une manière générale d'abord le reflet de leur fédération. Ils sont élus par cette fédération. C'est difficile de les déplacer. C'est difficile par un acte gouvernemental de les déplacer. Donc, ça ne devait venir que de l'intérieur. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une belle pression quand même du ministère. Et aujourd'hui, effectivement, cette décision-là est prise. C'est une décision qui n'est pas définitive, mais qui annonce sans doute des évolutions. Il est écarté, il n'est pas remplacé à son poste. Il y a quelqu'un qui va faire l'intérim, si j'ai bien compris. Je parle sous votre contrôle.
Philippe Diallo, ouais.
Je parle sous votre contrôle. Et ensuite, le COMEX se prononcera à la suite de l'enquête qu'il y a par le ministre, par les services du ministère des Sports, et qui tireront des conclusions sans doute là-dessus. Je pense que c'était la meilleure solution avec les moyens qu'avait le gouvernement, c'est-à-dire de l'écarter. Il fallait l'écarter. Les propos qui ont été tenus sont des propos qui, pour un président d'une fédération, pour un responsable d'une fédération, qui sont particulièrement choquants. Quand on a d'une manière générale des choses à dire, le premier des réflexes, on le sait dans toutes les écoles de management et dans les écoles de commandement, le premier réflexe, c'est de le dire en tête à tête et en dehors de tout ça. Et donc, moi, je suis assez satisfait de cette décision-là. On va voir comment les choses ensuite vont évoluer.
Alors, il y en a certains qui sont venus donner de la voix. Hein. Il y avait quelques manifestants ce matin pour créer leur opposition, en tout cas à demander à ce qu'ils soient démis de ses fonctions. Parmi eux, une association de jeunes joueuses de foot. Écoutez.
Association de foot inclusive, on est composé de lesbiennes, personnes trans. Et on se bat pour un foot qui accueille tout le monde. Et en l'occurrence, Noël Le Graët, qui dirige la Fédération française de football, n'est pas du tout inclusif, loin s'en faut. Il rejette toutes les personnes qui ne sont pas dans le moule. Il y tient des propos homophobes. Il est accusé d'agression sexuelle. Enfin, on ne supporte plus ces modèles pour la jeunesse, parce qu'en fait, le foot, c'est la jeunesse. Et tous les enfants... assistent à la Coupe du Monde, etc., et entendent les propos de cette personne, et c'est vraiment pas beau pour le futur. Donc nous, on se bat contre ça, et on espère qu'il va démissionner, partir, et que la FFF pourra être enfin une belle fédération.
La société actuelle ne reflète plus les aspirations des jeunes.
Moi, je vis dans un pays, comme vous, où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes avec les fédérations sportives. Beaucoup.
Avec le patinage.
Des sociétés, des problèmes d'argent. Vous avez vu le rugby, tout récemment, quand même, les condamnations de justice. Avant ça, il y a eu le patinage avec des histoires d'attouchements, de viols et autres absolument insupportables. Maintenant, c'est la fédération française. Et Dieu sait qu'il y a plein de problèmes depuis longtemps. Et au-dessus, il y a la FIFA, où il y a des montagnes de problèmes d'argent avec cette affaire en arrière-plan de Qatar et post-Qatar. Donc la ministre des Sports, elle a un vrai boulot à faire de nettoyage de toutes ces fédérations et de remise au pas d'un certain nombre de gens qui sont assis sur beaucoup d'argent et qui se croient à peu près tout permis et qui disent à peu près n'importe quoi et qui peuvent choquer les gens parce que il y a un problème de racisme dans le stade, on ne peut pas le nier. Et ça doit être traité, ça ne l'était pas. L'homophobie, moi j'ai porté une loi contre l'homophobie dans ce pays. Il y a des gens qu'il faut respecter, et puis il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Alors, ce qui me choque quand même, parce que vous y faisiez allusion tout à l'heure, c'est que, contrairement à l'Assemblée nationale, où le Premier ministre peut être changé par le président ou par un vote de défiance, le président d'une fédération, une fois élu,
il n'y a pas de garde-fou, quoi. C'est ça qui est surprenant.
Il n'y a plus de porte de sortie, sauf à ce qu'il veuille bien se retirer. Donc ça renforce ce côté arrangement entre amis, avec des fédérations locales, copinage, et puis un pouvoir absolu.
C'est peut-être le moment aussi d'aller vers le fond de ces institutions.
Parce que le COMEX est constitué essentiellement de membres qui étaient proches de Noël Le Graët. C'était des soutiens. Au fur et à mesure, il y en a quelques-uns qui se sont un peu mis en retrait aussi, qui ont commencé à le lâcher. Mais effectivement, c'est un des problèmes actuellement.
Alors moi, je conseillerais à Madame Oudéa-Castéra de réfléchir à un texte qui vienne modifier les conditions.
Les statuts. Ouais.
Bien sûr.
La loi 1901,
ça va être
difficile
quand même.
Pourquoi on est dans une mission de service public. Il y a beaucoup de ces clubs qui sont
soutenues par de l'argent public, pardon. Et donc l'État est en droit de dire, bon, dans les fédérations, voilà comment je vois l'organisation des élections et le contrôle des gens qui sont
élus. Judith Ventrom, il est temps de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de moderniser un peu tout ça.
Oui, il y a une chose qui me frappe, c'est étant donné le pédigré de Noël Le Graët, il a quand même fallu qu'il s'en prenne à l'icône Zidane pour que tout ça arrive. Jusque-là, il réussissait parfaitement à survivre. Ça interroge.
Exactement ça.
Guillaume, précision là-dessus. C'est vrai qu'ils s'en sortaient plutôt
Ils s'en sortaient bien. Pourquoi ? C'est parce que sur les plans sportifs, l'équipe de France rayonnait depuis son arrivée en 2011. On se souvient du marasme en 2010 avec la Coupe du Monde.
Donc on ne s'intéressait pas trop aux affaires d'opacité.
Mais après, donc il y a eu l'arrivée de Deschamps en 2012. Et à partir de là, les résultats ont commencé à redécoller. Il y a eu donc la Coupe du Monde 2014. Il y a surtout eu donc l'Euro en France 2016 qui s'est bien passé. Il y a eu le titre de champion du monde. Il y a eu la victoire en National League. Il y a eu encore, là, on est presque à oublier qu'il y a même pas un mois, on était en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Donc, il était sauvé un peu par ça, effectivement. C'était un bouclier. L'équipe de France n'a rarement aussi eu une aussi bonne image auprès de l'opinion publique que lors de ces 10 dernières années.
Quelques mots quand même, et pour finir sur ce thème, parce qu'on parle du fonctionnement de cette fédération. Comment la succession va-t-elle s'organiser ? On a beaucoup dit, c'est lui et Deschamps qui vont choisir. Ça aussi, ça paraît pas très démocratique. Est-ce que c'est l'occasion aussi de moderniser ce processus-là, revoir ?
Déjà, ce qu'on sait, donc, c'est effectivement Philippe Diallo qui va assurer l'intérim en attendant les conclusions de l'audit qui seront envoyées à la Fédération française à la fin du mois de janvier. Ensuite, Noël Le Graët aura 2 semaines pour se défendre par écrit. Et à partir de là, donc, on verra s'il est confirmé dans ses fonctions ou alors s'il est mis en retrait de manière définitive. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on enclenchera un nouveau processus pour...
Mais ça sera le COMEX qui fera ça.
Qui fera
qui va le
oui une fois
parce que le il peut pas y avoir de gérance. C'est une association, donc il est élu par les membres, alors peut-être au deuxième niveau aussi, mais par les membres de son association.
Aujourd'hui,
donc, c'est le COMEX qui
sauf condamnation en justice.
Aujourd'hui, l'État est impuissant. C'est ce qui se passe sur le rugby. Il n'est même pas sûr qu'il y ait une nouvelle élection derrière. On peut s'arranger entre amis.
Juste vous signaler que l'année prochaine, il y a le championnat du monde des féminins. Des féminines, c'est ça, on est d'accord.
Il va falloir envoyer un signal quand même.
C'est important. Et la jeune joueuse le disait, c'est important. Il y a le championnat du monde des féminines. Personne n'en parle d'ailleurs. C'est le championnat, pourtant, elle joue.
Il faut préciser que l'équipe de France fait partie des meilleures équipes au monde en termes de.
Non, mais ce qui est
donc,
intéressant.
Donc là aussi, il faut que ça rejaillisse quand même en bien sur
ce qui est intéressant.
On finira avec ça vraiment, Pierre.
On ne peut pas le forcer à une nouvelle élection.
Oui, non, c'est ça. Il faut attendre la fin du mandat.
Il faut que ses amis.
Dans la fédération de rugby, il n'y a pas de nouvelle élection.
Dans le COMEX.
Allez, on va parler éducation. Tiens, parmi les choses qui bougent, parlons du niveau des élèves en français. Pape Ndiaye, qu'on entend quand même assez peu sur tout ce qui est cursus scolaire, eh bien, il a une proposition désormais, une solution quotidienne même, c'est une dictée par jour pour les niveaux CM1 et CM2. À ceci s'ajoute selon lui la nécessité de lire et d'écrire au moins 2 heures par jour. Bonne chance aux parents, enfin ou aux maîtres. Les précisions de Maureen Vidal et on en parle.
Alors que le niveau en français des élèves est en chute libre, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, préconise une solution, une dictée par jour pour les élèves de CM1 et CM2. Selon lui, l'utilité serait de faire comprendre et respecter les règles de grammaire et d'orthographe, vues parfois plusieurs semaines plus tôt en classe. Une urgence, puisque selon le ministère de l'Éducation nationale, 27% des élèves n'ont pas le niveau attendu en français. À peine un élève sur deux sait lire un texte avec aisance. Autre objectif pour les élèves d'élémentaire, écrire et lire au moins 2 heures par jour. Dans l'idéal, pour le ministre, 2 textes longs d'au moins 1 000 mots chacun devront être lus toutes les semaines.
Judith Ventrobe, alors c'est
en train de le dire. Oui, on était en train de dire que Jean-Michel Blanquer avait déjà restauré la dictée. Je dis restauré parce qu'il y a eu une période longue où elle était quasiment proscrite, non pas dans des textes législatifs, mais dans des directives ministérielles. Je me souviens notamment sous Najat Vallaud-Belkacem. C'était un exercice stigmatisant, paraît-il. Et Jean-Michel Blanquer en arrivant lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, a dit « je veux des dictées ». Alors, pas à ce rythme-là, c'était moins souvent. Je trouve que c'est une excellente initiative de Papa Ndiaye. Je suis d'autant plus contente de le dire que c'est la première fois que je dis ça, une initiative
le concernant.
De Papa Ndiaye.
J'avoue. Mais 2 heures de lecture par jour, est-ce bien raisonnable?
Écoutez, c'est super, mais il vaut mieux
est-ce que c'est pas un peu ambitieux, Pierre Lelouch?
Pourquoi on ne faisait pas ça, nous, à l'école?
Ah, si, moi, je lisais même à table, bon, vous savez, le livre que vous devez planquer pour manger.
Quand vous êtes entré en sixième à l'époque, même récente, comme c'est votre cas, il y avait un enfant sur deux qui savait pas, qui comprenait pas ce qu'il lisait. C'est le cas aujourd'hui. Un tiers ne maîtrise pas les lectures et un enfant sur deux ne sait pas ce qu'il lit à l'entrée en sixième.
Et on sait bien que dans ces matières-là, il n'y a que l'apprentissage.
Mais alors, il y a un autre sujet connexe, en dehors du nombre d'heures où on est censé faire des dictées tous les jours, etc., ce qui me paraît moi aussi une très très bonne initiative, c'est qu'il ferait bien de regarder au niveau des profs aussi. Parce que quand on regarde des gens qui sont engagés alors qu'ils n'ont pas le niveau, qu'ils ont 4 à l'examen, mais il n'y a plus de profs, donc on les prend quand même. Quand on voit qu'il y a des enseignants qui ne savent pas ce que veut dire le mot chancelant ou ludique, c'est assez inquiétant. Donc après, on leur dit, vous allez faire la classe. J'ai lu un reportage sur les maîtres qui ont été embauchés
dans le Figaro
aujourd'hui, je crois même. Oui. Ça fait peur.
Donc, sans parler des fautes d'orthographe parfois dans les communications avec les parents, moi j'en ai déjà vu. Hein.
Ouais. Vous savez ce qui se passe en Chine aujourd'hui pour empêcher les enfants chinois d'être toute la journée sur les écrans? On leur interdit les écrans. Le temps d'écran est limité à une demi-heure dans la journée. Vous savez combien c'est en France? Plusieurs heures.
Ouais. C'est la problématique.
Voilà. Michel Fauvergue, on fouillera.
Oui, c'est exactement ça la problématique. C'est-à-dire que Pierre Lelouch, parler du temps d'avant, et il a raison. Nous, on lisait, on regardait, on essayait de lire des choses, et des dictées, il y en avait. Mais aujourd'hui, il y a la concurrence des écrans, et c'est peut-être aussi ça qui pose un problème. Et là, pour le coup, le ministre de l'Éducation nationale, comme son prédécesseur, ont raison dans ce domaine-là. La langue française, c'est quelque chose de phénoménal, à la fois à lire, et je peux vous le garantir, à écrire aussi.
Au passage, ce serait bien qu'ils fassent des annonces pour les maths aussi, parce qu'on sait que le niveau en maths...
Oui, mais sur la lecture, la dictée, c'est bien. Je crois qu'il faut aussi remettre au carré, une fois pour toutes, l'apprentissage de la lecture au tout petit. Vous savez, avec cette fameuse opposition entre méthode globale et méthode syllabique. Alors, quand on a parlé il y a quelque temps, on nous assurait que non, c'était fini avec la méthode globale. Maintenant, c'est que la méthode syllabique. Quand vous allez sur le terrain, vous vous rendez compte que grosso modo, chaque prof se débrouille pour faire sa sauce. Et il y a des profs idéologues qui ne veulent pas de la méthode syllabique. Alors là, ce n'est pas la peine de faire une dictée. Les enfants n'y arriveront pas.
Mais la méthode syllabique, c'est compliqué. Hein. Je ne sais pas si vous avez expérimenté.
Écoutez, ça a permis à des générations et des générations d'écrire très bien et de lire parfaitement.
Pierre Lelouch, on a un bon plateau à l'ancienne sur la méthode. Si vous voulez bien répondre à ma question sur les maths, là aussi, il va falloir qu'on revienne un peu dans le haut du classement. Parce
alors, moi, j'ai vu le classement le plus récent qui vient de tomber, Polytechnique, 40e position. 40e position.
C'est
qu'on était si fiers de nos grandes écoles scientifiques et nos ingénieurs, nos mathématiciens, on avait les meilleurs du monde. Mais ça se dégrade. Dès que ça se dégrade à la petite enfance, ça donne des résultats après.
Bon, voilà.
Alors après, il faut faire comme M. Pambiaï, aller à l'école alsacienne avec ses enfants.
Et bim, c'est dit, on finira là-dessus, sur cette micro-polémique que vous venez de nous lancer.
Aussi, hein. Pour les mathématiques, on a besoin de savoir lire.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Problématique. Hein, donc,
ouais. Donc tout revient à la lecture dès le CP. Bon, enfin, bon, voilà. Pour une fois, on pouvait saluer une initiative de Papa Ndiaye, comme dit Judith Weintraub. On s'interrompt, c'est déjà la fin de la deuxième demi-heure. On revient pour parler de ce festival, Les Déferlantes, qui a annoncé son changement de lieu. Vous le savez, il y avait deux groupes majeurs engagés sur l'événement, dont Indochine qui a dit « Nous, Perpignan, on n'en veut pas ». À cause de la mairie RN, on en discute juste après. De retour avec vous, avant de reprendre le débat, je propose de retrouver Adrien Spiteri pour le rappel de l'actualité.
Olivier Véran ne croit pas une mobilisation massive contre la réforme des retraites. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé ce matin sur le projet présenté hier par Elisabeth Borne. Il prévoit de repousser l'âge de départ à 64 ans d'ici 2030. Opposés à la réforme, les syndicats annoncent un rassemblement le 19 janvier prochain. Le taux du livret A en hausse. Vendredi, la Banque de France devrait proposer un relèvement à plus de 3% en février, du jamais vu depuis 2009. Pour rappel, le taux est revu tous les 6 mois sur la base de la moyenne semestrielle de l'inflation. Et puis les vols intérieurs reprennent aux États-Unis. Le trafic aérien a été perturbé après la panne d'un système d'information. L'origine n'a toujours pas été déterminée. Plus de 3500 vols ont été retardés. La porte-parole de la Maison-Blanche exclut pour le moment une cyberattaque.
On va parler du festival Les Déferlantes. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler d'ailleurs, qui a annoncé son changement de lieu après une polémique. Le groupe de musique Indochine qui devait s'y produire finalement n'a pas accepté le choix de Perpignan. Il a jugé qu'il ne souhaitait pas se produire dans cette ville qui est dirigée aujourd'hui par Louis Alliot pour le Rassemblement National. Et puis après, le groupe Louise Attaque qui lui aussi était au programme s'est joint au mouvement de contestation. Regardez ce qui était en jeu. Maureen Vidal pour les images.
Les menaces de boycott auront eu raison du lieu où se passera le festival Les Déferlantes. Prévu du 6 au 9 juillet 2023, le festival devait avoir lieu initialement à Serrette, puis au final à Perpignan. Seulement problème, pour le célèbre groupe de musique Indochine, la ville est dirigée par Louis Alliot, maire issu du Rassemblement National.
Nous demandons expressément à la direction des Déferlantes de déplacer ce festival, faute de quoi nous annulerons notre venue.
Une déclaration qui a choqué le maire de Perpignan et les députés du Rassemblement National.
Je pense qu'on est tombé sur un groupe qui est particulièrement sectaire et finalement discriminant. Je ne suis dans cette affaire qu'une victime collatérale d'un certain nombre de choses qui se passent dans le milieu culturel.
Par son attitude sectaire, le groupe Indochine discrimine toute une ville et ses 121 000 habitants. Il n'y a aucun courage là-dedans. Plutôt du snobisme et surtout le mépris de milliers de leurs fans fidèles qui sont aussi, et c'est leur droit, électeurs du RN.
Le groupe Louise Attaque s'est ensuite joint à la contestation d'Indochine. Sous la pression, les organisateurs du festival Les Déferlantes ont déclaré renoncer à la ville de Perpignan. Ils cherchent actuellement une ville dans les Pyrénées-Orientales qui pourrait accueillir les 30 000 festivaliers cet été.
Et on va l'entendre à nouveau, Louis Alliot, c'était ce matin sur notre antenne.
Dans cette affaire, on nous a demandé, en désespoir de cause, d'accueillir ce festival qui ne pouvait plus se tenir dans une ville pas très loin de Perpignan. On a dit oui. Il se trouve qu'Indochine a fait du chantage, parce que c'est du chantage, en disant si c'est Perpignan, nous ne viendrons pas. Donc effectivement, c'est tout le monde le prend mal, y compris ceux d'ailleurs qui ne votent pas pour moi, qui ne sont pas pour moi, car ils ont pris en otage la ville de Perpignan, qui est strictement pour rien dans cette affaire. Et je trouve ça un peu déplorable. Ils viennent jouer devant leur public, ils ne viennent pas jouer pour me faire plaisir à moi ou pour faire plaisir au Rassemblement National. Tout ça est totalement, j'allais dire, dérisoire. C'est lamentable de voir ça de la part de gens qui sont des privilégiés, qui sont des privilégiés du système. Et j'espère que le public leur en tiendra rigueur à l'avenir.
On ne peut pas être que dans le symbolique et priver les fans.
Écoutez, c'est une affaire très sérieuse. Ce n'est pas seulement le Front National, ses 89 députés et presque la moitié de l'électorat qui avait voté la présidentielle pour Mme Le Pen qui sont ainsi envoyés aux gémonies et condamnés par avance. Ce n'est pas seulement cette dimension-là. Ce qui me gêne le plus, c'est deux choses. D'abord, l'indignation à géométrie variable que je trouve insupportable. Moi, j'ai pas entendu les mêmes se mobiliser, par exemple, pour un boycott au Qatar, pour la Coupe du Monde de foot. Et Dieu sait que les intérêts financiers, humains et autres étaient autrement plus sérieux. Personne n'a bougé. Où étaient les intellos, les artistes? Personne. Front National, c'est facile. Qatar, plus compliqué. C'est ce que je constate. Deuxièmement, cette affaire relève de ce que les experts en relations internationales connaissent sous le nom de boycott culturel. Le boycott culturel, c'est une affaire très sérieuse. Ça a commencé il y a une vingtaine d'années. D'abord, ça a commencé un peu contre l'Afrique du Sud, puis ça a été systématisé contre l'État d'Israël, avec un truc qui s'appelle le BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Et l'idée, c'était d'empêcher qu'il y ait organisé parmi les artistes un boycott de toute manifestation en Israël, refus d'aller là-bas, et boycott des artistes israéliens qui pourraient se produire en France, comme ce c'est. Et il y a eu Jean Villard au théâtre Jean Villard à Marseille, à l'Opéra de Paris en 2016, des manifestations. À chaque fois,
on utilise le boycott dans cette dimension-là.
Donc pour vous, c'est grave parce que la politique n'a rien à y faire.
Tout récemment, Nelly, le boycott a été employé contre les artistes russes parce qu'ils sont russes. Donc, par définition, complices de Poutine, ils n'ont pas le droit de faire de la musique. Ils sont interdits, par exemple, au Canada. Ce genre d'approche est absolument insupportable. Je rappelle que la République est contre le boycott culturel, que l'Europe est contre le BDS. Ce genre, si on commence à jouer à ça, alors c'est la guerre civile culturelle. Alors il y a des endroits qui ne sont pas autorisés, il y a des endroits qui sont maudits. C'est insupportable. On doit laisser, de la même façon qu'on a dit pour le Qatar, on n'a pas eu tort d'ailleurs, on ne va pas pénaliser les joueurs de foot, s'ils veulent jouer au foot, ils vont au foot, ils se sont entraînés pour. De la même façon, s'il y a des amateurs de musique, laissons-les profiter de la musique et laissons la politique de côté. Sinon, on retombe dans des trucs très compliqués et qui vont nous ramener à une période très sombre de l'histoire.
Je dis trop attention aux amalgames. Il ne faut pas priver les fans sous prétexte qu'on n'est pas en accord avec...
Oui, évidemment. Ou alors qu'on explique ce qu'on reproche exactement à Louis Alliot. Moi, j'aurais bien aimé...
Ou à la ville de Perpignan, en l'occurrence.
Et à Louis Alliot, puisque c'est la coloration politique du maire...
C'est Perpignan qui est sanctionné.
C'est Perpignan, mais c'est parce que Louis Alliot est maire que Perpignan est sanctionné.
C'est parce que le groupe Indochine vote pas Rassemblement National, donc...
Pourquoi ? Quelles sont les déclarations racistes ? Quelles sont les déclarations antisémites ? Quelles sont les déclarations qui font que Indochine se permet de décréter qu'il n'ira pas à Perpignan ? J'ajouterai à la liste dressée par Pierre Lelouch le fait qu'aucune voix ne s'est élevée, par exemple, pour dire « n'allons pas à Strasbourg » après que l'an dernier, la mairie écolo de Strasbourg a voté une subvention à une mosquée d'un mouvement miligorus, en l'occurrence, turc, qui avait refusé de signer la charte pour la laïcité.
Donc on revient à la géométrie variable.
Exactement.
Oui. Jean-Michel Fauvergue, et on conclura avec vous sur cette affaire.
Oui, moi ce que m'a appris ma brève incursion dans le milieu politique, c'est qu'à partir du moment où les gens votent, ils sont libres de voter pour qui ils veulent, et à partir du moment où il y a un résultat, on respecte ce résultat-là. Et d'une manière générale, les hommes et les femmes politiques prennent acte de ça, et que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, eh bien, reconnaissent que les électeurs se sont prononcés pour telle ou telle personne ou telle tendance d'une manière générale. Et ça, c'est respectable et ça doit être respecté de tous, y compris, je pense, des artistes qui, eux, sont là pour leur art devant un public dont ils ne savent pas pour qui il va voter, et c'est bien normal, s'il a voté pour le maire ou s'ils n'ont pas voté pour le maire. Ça me semble être cul par-dessus tête, cette affaire-là. C'est dû au fait que Serré n'a pas pu organiser ce dispositif-là. Je suis content que ça reste dans les Pyrénées-Orientales en tant que Catalan. Par contre, inimaginable que des artistes fassent ce type de chantage.
Allez, on s'interrompt quelques secondes. Et puis, après la petite page de pub, on reparlera des retraites, parce que c'est quand même le dossier le plus épineux du moment. Ça ne fait que commencer. On s'interrogera aussi sur la possibilité d'une mobilisation massive dans la rue, à l'appel des syndicats, des partis de gauche. On verra si le secteur privé peut lui aussi se mobiliser en masse. En tout cas, le 19 janvier, ce sera une journée test. On l'a bien compris. À tout à l'heure.
Pour votre gouvernement.
La toute dernière partie de notre débat, on reparle de la réforme des retraites. On en connaît maintenant les grandes lignes dévoilées hier après-midi. Âge légal finalement fixé à 64 ans, pénibilité, carrière longue. On va faire un point, si vous avez raté la séquence hier dans l'hémicycle, avec ses principales mesures. Aminata Adem.
Principale mesure de la réforme, le recul de l'âge légal de départ à la retraite.
À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030.
Cette réforme prévoit notamment de préserver les dispositifs pour les carrières longues, avec un départ possible à partir de 58 ans pour un début de carrière avant 16 ans, 60 ans pour ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans, ou encore 62 ans pour ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans et qui ont cotisé au moins 5 trimestres avant ce seuil. En effet, le gouvernement a décidé de mettre au cœur de sa réforme la prise en compte de la pénibilité de certains métiers dans le calcul des droits à la retraite, avec un compte professionnel de prévention élargi. Au passage, la chef du gouvernement confirme la revalorisation de la pension minimum à 1 200 € pour tous les retraités.
Les salariés et les indépendants, notamment les artisans et les commerçants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC, partiront désormais avec une pension de 85% du SMIC net, soit une augmentation de 100 € par mois. C'est près de 1 200 € par mois dès cette année.
La proposition de réforme acte également la fermeture de la plupart des régimes spéciaux. Une question d'équité, dit-elle, qui ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés désormais affiliés au régime général de retraite.
Ça, c'est pour les grandes lignes. Mais vous alors, qu'en pensez-vous ? On vous a posé la question.
J'en sors perdant, bien évidemment. Je vais partir plus tard à la retraite. Déjà qu'elle était fixée assez haute et que... J'entends dire que nos plus belles années sont à l'après la retraite et de voir que nos plus belles années vont encore régresser, je ne sais pas ce qu'il y a de bien là-dedans.
Tout va dépendre de ce qui va se passer après, parce que là on parle d'une réforme maintenant, mais moi je vais partir dans la retraite d'ici plus d'une vingtaine d'années, et d'ici 20 ans il va y en avoir beaucoup d'autres, et on pourrait peut-être être gagnant, mais je pense qu'on va être surtout perdant.
Je sais que moi, mon père, il m'en a un peu parlé. Il trouve que nous, dans le milieu ouvrier, on est quand même perdants par rapport à ça. Donc, bon, je sais que nous, on va avoir certainement des manifestations, des mouvements sociaux. Donc, on fera partie de cette révolte et de ces grèves.
Hein. Judith Ventrub, la grande question, c'est est-ce que le non à la réforme va prendre dans la rue ? Est-ce que les syndicats, les partis de gauche vont réussir à mobiliser ? Est-ce que le monde salarial va s'élever comme ça, se lever comme un seul homme pour dire on n'en veut pas.
Alors en matière sociale, il faut être spécialement prudent pour les prédictions qui concernent l'avenir. Parce que vraiment c'est un domaine extrêmement volatile. On ne sait pas ce qui peut déclencher un incendie ou pas. D'ailleurs, je serai Olivier Véran, je me garderai de déclarations du genre je ne crois pas à une forte mobilisation le 19, il n'y a rien de tel pour doper l'ardeur des troupes et emmener, précipiter les gens dans la rue. Après, quand on regarde la réforme elle-même, il y a quand même un élément extrêmement important qui est de nature quand même à désamorcer la contestation, c'est qu'elle continue à faire un sort différent au privé et au public. Je te rappelle que pour les agents de la fonction publique, il y a la clause du grand-père, c'est-à-dire que ceux actuellement en fonction ne verront pas du tout leur statut ni leur retraite changer, c'est seulement les entrants. Et les entrants auront toujours ce privilège par rapport aux salariés du privé que leur retraite soit calculée en fonction des 6 derniers mois et pas des 25 dernières années.
Donc il y a quand même des aménagements qui sont prévus.
On y a droit. Sans parler des secteurs totalement épargnés, qui sont les secteurs où il y a possibilité de bloquer le pays, par exemple dans l'énergie, parce que justement, ce que le gouvernement craint par-dessus tout, c'est moins d'ailleurs une mobilisation ultramassive type 95 que des blocages ponctuels de domaines absolument névralgiques.
Mais alors qui pourrait aller dans la rue ?
Ce que dit Judith est très, très juste. On n'est pas en 95 où Juppé avait pris un billet en tête les régimes spéciaux. Là, on s'est arrangé pour ne pas y toucher. On fait un cadeau, j'entendais ce que disait cet ouvrier, on fait quand même un cadeau aux plus modestes en disant bah, même ceux qui sont aujourd'hui retraités vont mieux vivre, parce qu'il y a des retraites très basses aujourd'hui, et c'est normal de ne pas les pénaliser, surtout avec l'inflation qu'il y a. Donc ils ont désamorcé plusieurs choses qui peuvent leur péter à la figure. Cela étant, il y a quand même une gauche qui est complètement déchaînée. Moi, je vais vous donner le florilège des formules prononcées hier dans un meeting à Paris. La réforme... alors d'abord, il y a la formidable Madame Rousseau qui instaure un droit à la paresse. Quand on
vous l'avez dit il y a un petit moment, non, déjà.
C'est énorme, ouais. Par rapport à l'héritage de Jaurès et... sans parler du stakhanovisme. Enfin bon,
oui, vous voyez, elle parle à ce jeune homme à bonnet qui attend ses, les plus belles années de sa vie pour après sa retraite. On lui souhaite d'en avoir avant. Mais...
C'est incroyable. Oui. Moi, j'appartiens à une génération où à 20 ans, on ne s'interrogeait pas sur les plus belles années de sa vie. Les plus belles années de sa vie, c'est celles où on est en pleine forme et où on peut justement donner et travailler. Mais bon, peu importe. Mais le droit à la parole, ça fait partie de cette idéologie. Après, vous avez la misère ou le cimetière. Après, vous avez... cette réforme, c'est la retraite pour les morts.
Et puis vous avez l'Assemblée nationale qui doit devenir une ZAD, selon l'excellente Madame Tondelier. Avec un discours pareil, effectivement, les gauchos, les gauchistes vont se déchaîner.
C'est-à-dire qu'au-delà des formules, pour vous, il n'y a pas grand-chose, quoi.
Et ils comprennent non, mais je pense qu'ils vont essayer de refaire la santé de la gauche sur la nostalgie de Mitterrand, sur le cadeau de la retraite à 60 ans, sur cette idéologie-là. Est-ce que ça va prendre, dans un pays qui est quand même inquiet de la tournure que les choses prennent, y compris à l'international, je ne suis même pas sûr. Mais enfin, il faudra voir. Comme dit Judith, à nouveau, elle a raison. Je serai à la place de Véran, je ferai très attention à ce que je dis, parce que c'est pas sûr que ça prenne, mais ça peut prendre, parce qu'il y a, ouais. Il y a un mélange de colère et de résignation dans le pays, parce que là, il y a une date, très grande inquiétude.
Il y a une date qui est fixée, mais c'est pas la seule, hein, il y en aura d'autres à suivre. Voilà. Il y a des métiers, on le disait.
Et en plus, ils ont fait la bêtise d'étaler le truc dans le temps, où le vote n'interviendra que dans 5 semaines. Donc d'ici 5 semaines, il peut se passer mobilisé. Plein de choses.
Voilà. On parlait de pénibilité, c'est vrai qu'il y a des métiers où on peut pas travailler passé un certain âge. Écoutez ce témoignage fort d'un salarié du BTP.
Un maçon qui a commencé à 18 ans, à 60 ans, c'est une personne qui est cassée. Travailler dehors, porter des charges lourdes, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte. Je pense qu'à un moment donné, on a un gouvernement qui, pour moi, est déconnecté. Bien sûr qu'on est énervé parce qu'à 60 ans, il va nous rester quoi ? À 64 ans, il va nous rester quoi ? On aura cotisé toute notre vie pour payer quoi ? Notre cercueil ? Parce qu'à la fin, c'est ce qui va se passer. À 64 ans, il ne faut pas rêver. Notre vie, elle est faite. Il va nous rester quoi ? Donc on aura cotisé toute notre vie pour payer qui ? En fait, c'est ça le problème. Pour payer qui, quoi, comment ?
Bon, 18 ans, il partirait à 61 ans.
Oui, parce que le point central, c'est la durée des annuités.
C'est la durée des annuités, c'est les fameux 43 ans.
Et à mon avis, c'est une erreur, là encore.
Tout le monde retient 64.
Tout centré sur le 64, ouais. Alors que le point clé, c'est le 43 qui est déjà acté. Et c'est un gouvernement de gauche qui l'a fait, le 43.
Donc il va falloir un peu mieux communiquer pour que les gens directement concernés le sachent quand même, Jean-Gilles Vauvergue.
Tout à fait d'accord. 43 ans de travail pour partir à taux plein. Et ce, à partir de 2027, au lieu de 2035 dans la réforme Touraine.
Ça veut dire qu'un apprenti maçon qui commence à 16 ans, il s'arrête avant 60 ans.
À 58.
Bien sûr.
Tout à fait, avec les carrières longues. Et il y a des précautions qui sont prises, comme le disait Pierre Lelouch. Il y a des précautions qui sont prises dans ce domaine-là. Donc on entend tout, un peu tout et n'importe quoi, à la fois de la part de travailleurs, à la fois aussi, moi j'étais très, très, très interpellé par la déclaration du jeune homme qui doit avoir 25 ans et qui nous parle déjà des retraites et des meilleures années, effectivement.
Les plus belles années de sa vie
qui sera derrière la retraite.
Souvenez-vous des lycéens qui s'étaient mobilisés quand il y a eu la présentation du premier texte retraite il y a 6 ans.
Mais oui, mais l'effort commun, et là il faut le reconnaître avec la majorité telle qu'elle est actuellement et les LR, l'effort commun, c'est de rendre pérenne ce régime de retraite par répartition et de faire en sorte justement que ce jeune homme-là puisse vivre les meilleures années de sa vie à 60 et quelques années en espérant que d'ici là, il vive quand même des jours heureux.
Tout en travaillant, car c'est possible.
Justement, la question étant de savoir à quel âge il va aller travailler.
On a du temps libre même quand on travaille.
C'est incroyable. On oppose, en tout cas ceux qui sont contre cette réforme-là, opposent le travail en disant c'est une horreur. En réalité,
le travail et le bonheur.
Ce qu'on entend, c'est pour ça que le travail, c'est une
horreur.
C'est pour ça que j'ai cité le droit à la paresse.
Oui, la mère travailler, Rousseau, c'est vraiment
la mère Rousseau, c'est la philosophe de la paresse. Oui. Et elle revendique la paresse comme étant un droit fondamental
par les autres.
De la Sécu et de la République, payé effectivement.
Alors, moi, je vais vous poser juste une question. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde dans notre société revendique le droit à la paresse?
Alors, il faut.
On va avoir du mal, là.
Moi
aussi, j'ai envie de revendiquer le droit à la paresse.
Soit on va être tous très pauvres, soit un certain nombre de gens vont partir.
Bon. Mais la paresse, il faut avoir une très riche vie intérieure pour aimer ça sur le long terme.
Déjà.
C'est marrant quelques heures par semaine.
Après, il faudrait expliquer à son boulanger.
Souvenez-vous du confinement.
Je m'ennuie après.
Beaucoup de gens ont dit je me suis ennuyée pendant le confinement. Ouais. Donc tout le monde n'a pas effectivement eu des ressources
le matin, quand
intérieures
on va,
suffisantes. Pour,
le matin, quand on va chercher son pain...
Je me suis engueulée pendant le confinement aussi.
Pardon ?
Je me suis engueulé pendant le confinement.
Ah, mais ça, c'est pas la paresse. Là, vous n'étiez pas paresseux, alors.
Non.
C'est bien. On finira là-dessus.
Quand on va chercher son pain le matin à la boulangerie, on n'attend pas que son boulanger soit feignant. Lui, on attend qu'il soit le bout à 3h du matin pour préparer le pain.
Parce qu'on veut avoir du pain frais, oui. On est mal. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir de...
de vous avoir sur ce plateau. On finira sur cette petite note humoristique du droit à la paresse. Merci de nous avoir
et à la baguette
rappelé
bien
ça.
Cuite.
Je le revendiquerai en temps et en heure. Et dans un instant, c'est Punchline, bien sûr, avec Laurence Ferrari. On vous retrouve demain à 15h30 pour une nouvelle édition de 90 Minutes Info. Excellente soirée.